On va vous demander un petit peu de silence, on va pouvoir démarrer cette rencontre avec trois des auteurs qui étaient en lice pour le prix Imaginal des collégiens cette année. Je rappelle que la remise du prix à Carole Trébor, c'est cet après-midi. Vous serez évidemment là aussi convié pour venir saluer votre lauréate, hein, même si vous n'avez pas forcément tous voté pour elle. Et puis nous, on va parler de l'expérience qu'ont eu ces trois auteurs qui sont avec nous, Manon Fargeton, Joëlle Marcastel et Joanne Elliott, de ce prix justement. Ils ont travaillé pour vous, avec vous, et puis vous avez rendu votre verdict également. Moi, je voulais justement savoir, Manon, comment est-ce qu'on apprend qu'on est sélectionné pour un prix comme le prix Imaginal des collégiens, et puis comment on réagit?
On l'apprend en même temps que tout le monde. Enfin, bonjour, d'abord. On l'apprend en même temps que tout le monde quand la liste paraît, quand la liste est publiée par le festival, la liste des nominés. Et puis comment on le prend? Je pense qu'on est content. Enfin, moi, j'étais contente. je pense que tous les auteurs le sont, parce que c'est une mise en lumière du livre et c'est une manière de le faire exister un peu plus. Donc c'est assez génial, et pouvoir rencontrer les lecteurs aussi. Voilà.
Des très jeunes lecteurs en plus, est-ce que c'est une satisfaction supplémentaire de se dire on a passionné, intéressé des jeunes adolescents qui pour certains peut-être sont déjà des lecteurs assidus, mais qui peut-être pour d'autres aussi ne le sont pas forcément?
Moi, je suis surtout en lien avec des jeunes lecteurs, de par Facebook, de par les mails, de par pas mal de médias comme ça qui sont assez... Il y a beaucoup de jeunes dessus en tout cas, et c'est surtout eux qui viennent me parler. Mais oui, c'est... Mais en fait, je sais pas, je trouve ça aussi génial d'avoir des lecteurs adultes que d'avoir des lecteurs jeunes. Quel que soit le roman d'ailleurs, que ce soit un roman jeunesse ou pas, je trouve ça aussi génial d'avoir des jeunes et des moins jeunes. C'est vrai que c'est chouette, parce que ce qui est spécifique à vous, c'est que vous êtes super cash, que quand vous aimez, vous aimez, que quand vous aimez pas, vous aimez pas, et vous le dites et vous n'avez pas peur de le dire. Et c'est super précieux pour nous quand on sait accepter la critique, ou quand on se reçoit comme ça une vague de j'aime. Et c'est les deux sont aussi précieux l'un que l'autre, autant le positif que le négatif. Et effectivement, c'est spécifique au public jeune et adolescent, et ça, c'est super précieux.
Alors, même question, Joanne, puisque tu as le micro, on va commencer par toi. En plus, en vieux briscard des Imaginales, est-ce que se retrouver dans la liste des éventuels lauréats pour le prix des collégiens, c'est aussi une satisfaction?
Ah oui, je peux que... On m'entend, ça marche, là? Ok, merci, parce que moi, je n'entends pas le retour. Alors, la même remarque que maintenant. D'abord, effectivement, se retrouver en sélection dans un prix jeunesse, c'est toujours un petit peu particulier pour un auteur qui écrit aussi pour adultes. Je suis dans le même cas. Le problème qu'on a avec nos lecteurs adultes, c'est qu'il y a très peu d'occasions de les rencontrer. Alors, évidemment, certains vont se déplacer sur un festival comme ici, sous Imaginal, mais pas en nombre comme vous. Bon, peut-être que vous êtes obligé aussi, voilà la différence. Mais, désolé pour ceux qui auront été contraints. Mais non, mais plus sérieusement, et d'être sélectionné dans un prix pour un prix, qu'on l'ait ensuite ou qu'on l'ait pas, peu importe, mais on sait que ça va être l'occasion de venir rencontrer une partie de ce public. Et puis, je ne vais pas être très original, je rebondis également sur ce que disait Manon, mais parce que c'est vrai. Et ça va ménager comme ça des moments de vrais échanges, d'échanges sincères. On saura ce qui aurait été apprécié, on saura ce qui n'aura pas été apprécié, et éventuellement pourquoi, là c'est même encore mieux. Et ces échanges-là sont effectivement très précieux pour un auteur jeunesse. Et puis je dirais, quand on est face à vous, on sait pourquoi on fait ce travail, on sait pourquoi on écrit, on sait pourquoi des fois on transpire, entre guillemets, des heures et des heures devant nos pages, devant nos écrans d'ordinateur plus exactement. Et c'est déjà en soi une sorte de récompense.
Jean-Luc, on refait le tour de table. Il y aura des choses un peu plus originales au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, mais c'est pour le premier tour, effectivement, ça risque de se répéter un peu.
Je finis le premier tour, alors. pour répondre à ta question et pour le dire à tous, je pense que ce serait vraiment hypocrite si on disait « ça ne fait pas plaisir d'être sélectionné pour un prix ». Si un jour vous entendez un auteur qui dit ça, pour dire « mais quand même, dis quand même une chose. Ça fait toujours plaisir d'être sélectionné pour un prix. Et effectivement, en particulier pour un prix des jeunes lecteurs, je rejoins ma collègue pour dire que c'est vrai, vous êtes cash quand vous n'aimez pas quelque chose, vous le dites. Pourquoi ? C'est vrai que souvent, les adultes, soit par timidité ou parce qu'on leur a dit il ne faut pas vexer, ou il faut pas. Voilà, en fait. Donc ils font très attention à ce qu'ils disent et donc du coup, on n'a pas vraiment de retour. Avec vous, on a un vrai retour, et ça, c'est très agréable, même si des fois, ben, ça se coupe. Donc ça, c'est très très bien. Et effectivement, écrire, c'est quand même une activité solitaire. Bon, je sais qu'il y a des auteurs, des fois, qui ne sont pas à l'aise en public, mais moi, je vous dis que c'est quand même un moment où on peut rencontrer nos lecteurs. Un des rares moments où on peut vous rencontrer, discuter avec vous, échanger. Aussi, par exemple, ici, comme c'est le cas aux Imaginales, par exemple, en dédicace, vous venez, on vous voit, on discute. Et ça, pour un auteur qui travaille dans son coin un petit peu solitaire, à imaginer ses histoires, ses univers, ben, ça n'a pas de prix.
On va y revenir parce que j'ai des choses méchantes à dire à Jean-Luc ici. Là,
des choses méchantes.
Oui. Bah non, mais tu as eu le temps avec le roman, ton roman qui était en lice. Comment t'as pas honte? Parce que c'était le dernier hiver et on y est quasiment quand même.
Tu vois, finalement. En fait, on me dit partout, vous venez du Cantal, vous avez du mauvais temps avec vous. C'est pas vrai, il fait froid chez moi.
Enfin, on va y revenir, mais là aussi, justement. Le fait de voir ce public, de le rencontrer, est-ce que déjà il y a eu des rencontres en classe, vous êtes allé les voir, est-ce que ça, là aussi, c'est un moment particulier?
J'ai fait beaucoup de rencontres en classe sur mon premier roman, en fait. Et ouais, c'est toujours un moment particulier, même si forcément, il y a des questions qui reviennent et qu'on répète souvent les mêmes choses. En même temps, on sait que les personnes qui écoutent, eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Nous, c'est peut-être la 10e fois qu'on le dit, mais eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que c'est important de répondre à chaque fois aussi précisément et aussi de manière aussi juste que possible, parce que pour ces gens-là, peut-être que ça va être important, et pour nous, ça l'est forcément.
Tu as parlé de leur côté cash, très, très franc, très net. Est-ce qu'ils sont pertinents aussi dans les remarques?
Ben, en général, oui. Alors, parfois, il y a des incompréhensions. Parce que... Mais alors, moi, je me dis toujours que c'est de ma faute, parce que je n'ai pas été assez claire. Et puis, oui, ils sont souvent pertinents, parce que, de toute façon, un roman, à un moment donné, il n'y a pas de roman parfait. Et un roman aura toujours des défauts au moment où il sort, parce qu'à un moment donné, bah, on pourrait le retravailler pendant 10 ans, mais... On va arrêter parce qu'il est temps que ça sorte et on a envie de passer à autre chose aussi et on a d'autres projets à faire grandir et voilà. Et donc, évidemment qu'ils sont pertinents parce qu'ils savent pointer ces défauts-là souvent. Les quelques petites choses qu'on a laissées passer parce que, bah voilà, un an plus tard, quand on repense au truc, on se dit « Ah, je l'aurais fait différemment ». Mais à ce moment-là, ça correspondait à notre réalité, à notre manière d'écrire, à notre manière de raconter cette histoire-là et dans toutes ces imperfections. Et c'est ces imperfections sont souvent pointés et c'est ça aussi, c'est super riche parce que ça aide à progresser et à aller plus loin dans les projets suivants.
John, toi tu as l'habitude d'être devant une classe puisque à l'origine tu es prof.
Ça fait déjà un petit moment.
Oui, d'accord, mais tu as quand même cette expérience là. Est-ce que justement c'est très différent quand tu viens en tant qu'écrivain dans une classe?
Oui, ça n'a plus rien à voir. On arrive avec une autre casquette, on est vu quelquefois un petit peu bien. Il y a encore le côté bête curieuse où, tiens, ça peut être encore à peu près vivant et à peu près, ça peut parler encore à peu près des mêmes choses que nous,
hein, pour
un
moi.
Auteur. voilà, il n'y a pas encore, je déclarais déjà à cette heure-là. Mais c'est toujours des moments, enfin, personnellement, c'est une part du métier qui, si elle n'existait pas, me manquerait énormément. C'est un truc que j'adore, voilà, venir devant les classes, même si, alors voilà, quelquefois, alors. Bon, soyons honnêtes, la plupart du temps, vous nous faites un super accueil, donc c'est vraiment génial, tout se passe admirablement bien. Et puis parfois, et c'est pas les moins intéressants, parfois, et voilà, il y a ces fameuses incompréhensions, sur etc. Et puis les rencontres ne prennent pas forcément le tour qu'on avait imaginé, parce que la classe, le groupe en face duquel on est... aura eu une lecture auquel on ne se sera pas attendu notre roman. Parce que ce qui se passe assez souvent, on raconte une histoire, on met des choses, il y a des choses qu'on veut mettre de façon, on va dire, consciente dans nos histoires. Et puis il se trouve que parfois, il y a des choses qu'on y met sans forcément se rendre compte. Et c'est vous qui nous le renvoyez. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement. Et je me dis, mais tiens, dans ce livre, voilà de quoi ça parle, votre livre. Et puis alors, moi, je ne l'avais pas du tout programmé comme ça. Et en y réfléchissant, je me dis, mais oui, mais c'est, le pire, c'est qu'ils ont raison. Ça parle comme ça. Donc, vous avez parfois, et c'est vraiment très, très régulier, une lecture, donc, ce que j'appelle moi, quelque part, une vraie lecture critique, que n'ont pas forcément des adultes sur nos autres projets, et ben, ça fait du bien, ça. Voilà. Pour ces moments-là, les rencontres en classe, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument génial.
Jean-Luc, ces rencontres, là aussi
Pareil, et d'autant plus qu'à chaque fois, je sais, pour me souvenir moi aussi d'avoir eu cet âge-là, et pour avoir, en ayant été enseignant aussi quand même, travaillé pas mal avec des élèves, on fonctionne beaucoup à l'affectif. Donc c'est vrai qu'après, quand on a lu un livre ou pas, je veux dire, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est très spontané. Tu pointais tout à l'heure le fait que des fois, justement, ils mettent le doigt sur des choses qui nous étaient passées à côté, et je trouve aussi que ça permet... aussi quelque part pour nous auteurs, on en sont maintenant à voir un peu quoi le vent ou à le faire, de garder une fraîcheur d'esprit parce que vous nous apportez la vôtre, vous nous apportez votre regard, un regard qui est des fois neuf, et puis ça évite d'être blasé. On ne peut pas être blasé devant une classe, enfin je sais pas, moi tu disais tout à l'heure, on va répéter peut-être 10 fois la même chose, ça nous arrive des fois devant plusieurs classes, même des fois dans la même journée, moi ça m'est arrivé, les questions des fois sont les mêmes. Mais c'est pas une raison, on ne va pas répondre en étant blasé en disant cette question, j'ai déjà répondu 10 fois, non, parce que ben, on sent en face. Quand on parle de notre métier, une petite étincelle de rêve qui s'allume dans l'œil d'un élève pour ce métier, pour ce qu'on fait. Et on se dit, nous, quelque part, c'est vrai qu'en étant maintenant dans le métier depuis quelques années, on a presque tendance à accepter les choses comme normales. Tiens, je suis écrivain maintenant, alors que c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais gosse. Et on se rend plus compte du rêve et de la chance que c'est. Et donc vous nous le renvoyez, vous nous rappelez, vous vous rendez compte, voilà, vous faites un métier extraordinaire, vous vivez vos rêves. Et quelque part, ça nous rappelle que voilà, on fait... quelque chose qu'on a toujours aimé faire. Donc ça, je pense que c'est très, très important pour vous, que vous nous fassiez ce petit rappel.
Manon, on va laisser les deux vieux de côté. Justement, est-ce que le lien est particulier pour toi qui est encore très jeune, et est-ce que justement, il y a encore une proximité peut-être différente pour toi par rapport à ces jeunes élèves?
Il y en a encore une au jour d'aujourd'hui, mais il y en avait une qui était tellement flagrante au début. Mon premier roman, il est sorti, j'avais 18 ans. Donc quand j'étais dans les classes, j'avais l'âge de votre grande sœur, quoi, vraiment. Et j'aurais pu être à la maison avec vous, enfin, dans la même famille. Et du coup, c'était vraiment très étrange parce que j'arrivais dans une classe et il y avait un petit truc de... C'est elle, l'auteur? Et c'était pas un vieux barbu Et il y avait vraiment un truc comme ça qui était vrai. En plus, à cette époque-là, j'avais les cheveux super longs. Non, mais c'était vraiment la blonde aux cheveux longs. Voilà, donc c'était assez, assez étrange. Et puis, passer ce moment de surprise, c'était génial parce qu'on parlait le même langage. Parce que, et, voilà, et encore aujourd'hui, on parle à peu près le même langage. Voilà, et le contact se fait de manière quasi instantanée. Dès qu'on commence à discuter, bah, voilà, ça part, quoi.
Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet, même si on a un public qui vous a lu, en tout cas une bonne partie sans doute. On va parler un peu de ce livre qui était en lice, ça s'appelle June, c'est ça?
Oui. Alors ça s'appelle June. June, c'est le nom de l'héroïne. Alors je ne sais pas si vous l'avez tous lu ou pas, parce que... Non, d'accord, il y a des noms, donc voilà, on va le... en fait, le livre, on ne sait pas si ça se passe... sur notre monde, dans un futur très lointain, ou si ça se passe complètement sur un autre monde. Il y a des petits éléments qui font penser que ça pourrait se passer dans un futur très lointain, mais je le dis jamais, je peux pas le dire. Mais toujours est-il que dans ce monde-là, il y a le visible, qui est le monde des hommes, le tangible, notre monde, disons. Et puis qui s'y superpose, il y a une deuxième réalité, qui est l'invisible. Et dans l'invisible, il y a deux forces qui s'opposent. Chacune représentée par un peuple. Il y a le chaos et l'harmonie. Et le peuple du chaos, donc les Eldaris, il y a très longtemps, ont commencé à prendre le dessus sur le peuple de l'harmonie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une Sylphide, la dernière tenante gardienne de l'harmonie. Et cette Sylphide va mourir, et en mourant, elle va transmettre tous les dons de son peuple à une petite fille, qui est June. Et cette petite fille, elle ne le sait pas, évidemment, et elle va grandir. Elle vit dans un monde un peu particulier, où toutes les villes sont repliées sur elles-mêmes. Il y a peu de contacts, personne ne voyage. Et elle va apprendre, elle va découvrir qui elle est et ce qu'elle porte en elle. Et son job, ça va être de rétablir l'équilibre invisible entre l'harmonie et le chaos. Et pour ça, elle va partir dans plein d'aventures et elle va être amenée, elle, à voyager pour le coup, ce qui est vraiment quelque chose de très rare dans le monde dans lequel elle vit.
On va changer d'univers avec Joël parce qu'on est chez les flibustiers, ou quoi.
Alors, bouquin pour le pic, c'était dans la peau d'une autre.
Ah oui,
c'est pas grave. Je te pardonne, vous savez, c'est le démarrage, il faut le
non, puis attends, mais t'en fais combien par an?
Et puis, ça, c'est trop. Non, mais c'est vrai, mais un coup de voix.
Non, mais c'est un thriller, c'est intéressant.
Alors, oui, voilà, c'est un thriller d'anticipation, c'est-à-dire légèrement de science-fiction, qui parle de quoi? Alors, qui parle en fait de la fabrication de. Et du côté, enfin justement, fabriqué et faux de certaines stars d'aujourd'hui, et ensuite de l'identité, qui pose la question, finalement, qui est-ce qu'on est réellement? Parce que c'est l'histoire d'une jeune fille, Lydia, qui est une superstar de la chanson adolescente, et qui, un jour, en fin de tournée, pète un plomb et agresse la présidente de son fan club, et puis suite à quoi, sa manager, parce que c'est une femme, enfin, il y a un homme et une femme, ses managers l'envoient se reposer, soi-disant, dans une clinique un peu mystérieuse au fin fond de la Suisse. Et puis là, bah, il lui arrive des choses un peu bizarres. Enfin, je ne vais pas déflorer tout le sujet, parce que c'est un thriller et du suspense. Et si je commence à tout raconter pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, j'imagine qu'il y en a. Et donc là, il se passe des choses bizarres. Et puis ce personnage découvre qu'elle n'est pas celle qu'elle croit être. On l'a fabriquée, on l'a réellement fabriquée à tous les points de vue, y compris ses souvenirs, etc. Et donc elle va s'échapper et essayer d'enquêter, entre guillemets, pour découvrir qui elle est, ce qu'elle est réellement. Donc voilà, pour une fois, oui, c'est un petit peu particulier dans ma production, puisque c'est, même s'il y a un petit côté science-fiction à un moment, on est quand même dans un thriller, donc c'est-à-dire qu'il respecte les codes du thriller, c'est-à-dire ça va relativement vite, il y a du rythme, du suspense, etc. Tout simplement pourquoi? Parce que bon, c'est un livre qui est paru dans une collection qui s'appelle Rajot Thriller, donc il y avait quand même un cahier des charges qui imposait de faire un thriller, hein, voilà, donc, il y a aussi des fois des raisons très, très pragmatiques, mais voilà, c'est ce que je peux en dire.
Bon, bah, oui. Et puis, oui.
Donc le livre en lice, c'était La Geste d'Alban. Donc pour ceux qui, alors je ne sais pas, voilà, pareil, qui l'a lu ou pas, pour ceux qui l'ont pas lu, on va dire, donc La Geste d'Alban est une, on appelle, j'aime pas les étiquettes, une histoire qui se déroule dans un Moyen-Âge parallèle, où il y a eu un cataclysme en l'an 1000, enfin en 999 pour être exact, où quelque chose est tombé du ciel, a brisé la France en deux parties en ouvrant une espèce de gigantesque brèche, une faille de montrailles, une lumière bleutée et mauvaise, qui va changer d'horrible manière bêtes et hommes qui s'en approchent. Et en plus, à cause de ce coup porté à la terre, des millions de tonnes de rochers de sang vont être proches dans le ciel. Et donc, pendant 100 ans, il fera froid, sombre, une espèce de hiver perpétuel, de nuit perpétuelle vont régner sur le monde.
C'est une obsession,
n'est-ce pas? Donc, 100 ans, par contre, ces nuées vont s'écarter, les hommes vont pouvoir se réapproprier ces territoires, chasser des créatures qui rôdent dessus, changées par la brèche. Et donc moi l'histoire, celle d'Alban, commence à cette période-là. Et donc Alban est un jeune homme, le fils d'un petit seigneur féodal du sud, de ce qui a été le sud de la France, dorénavant qui n'est plus un royaume. Hein. Et il n'a pas eu de chance dans la vie parce qu'il a été touché par le feu de la brèche dans le ventre de sa mère. Donc il est né brècheux, pour eux ça veut dire contaminé par le mal du diable. Il a un bras difforme par rapport à l'autre, énorme, dont il peut faire jaillir des griffes. Il a un visage que son père l'oblige à cacher derrière un masque. Il est obligé à porter depuis son enfance, un besoin porte ce masque pour le protéger des autres et pour ne pas les effrayer. Il a des yeux de chat qui voient dans l'obscurité. Donc Alban va être en but, on va dire, à l'hostilité des autres, les gens de son village, parce que les gens de son père ne l'aiment pas, ils ne veulent pas, au moins il devrait hériter des terres de son père, qui s'est remarié à l'amour de sa mère, et donc il y a eu un jeune fils qui lui est beau, blond, jeune, mignon, enfin tout ce qu'Alban n'est pas. Et donc il le préférait lui comme seigneur. Alban, pour eux, il est. Voilà, pas, donc il va devoir apprendre à se faire accepter par les autres, à se respecter déjà lui-même, à révéler sa vraie nature. Toute l'histoire, après ça, il va devenir peut-être un des plus grands héros de ces terres blessées, mais toute l'histoire tourne autour justement du masque. Qui porte un masque finalement? Est-ce qu'on ne porte pas tous un masque? Pour certains, un masque de beauté, d'autres, un masque. Quel est son vrai visage? Est-ce que c'est finalement ce masque qui est dessus? Est-ce que c'est son visage qui est dessus? Quel est ce visage? Les lecteurs ne sauront pas tout de suite, peut-être pas du tout, qui sait quel est son visage, je le dévoilerai peut-être un jour ou pas. Voilà.
C'est bien parce qu'avec vous, on a trois genres vraiment radicalement différents qui sont traités. Et justement, je voulais savoir par rapport, par exemple, Manon, à la science-fiction, puisque là, on est vraiment dans de la SF, dans le jeu. Comment est-ce que réagit ce jeune public qui n'a peut-être pas forcément les codes du genre?
Alors, moi, June, pour moi, je dis que c'est de la fantasy.
Futuriste.
Ah, bah, pas forcément. Étant donné que je ne tranche pas sur cette question de est-ce qu'on est dans le futur ou pas, et que c'est de toute manière assez c'est du background, quoi. C'est pas au centre de l'histoire. Et que ce qui prime, ce qui est au centre, et c'est d'ailleurs le titre du premier tome, Le Souffle, c'est les dons de ce peuple, c'est leur pouvoir, donc une forme de magie, même si j'emploie jamais ce mot dans le roman. Pour moi, j'ai écrit de la fantasy, mais on peut y mettre les étiquettes qu'on veut, en fait. Il y en a qui vont me dire que c'est de la dystopie, il y en a qui vont me dire... Ah, c'est très à la mode de mettre plein d'étiquettes, c'est à la mode depuis un moment. Moi, je prends ma marmite, je mets ce qui me plaît dedans, et puis j'en sors quelque chose, et puis ce qui en sort, vous mettez-lui les étiquettes que vous voulez, moi, à la limite, je m'en fiche. Donc après, est-ce qu'ils ont les codes? Mais évidemment qu'ils ont les codes, et évidemment qu'ils ont les codes de la SF, évidemment que vous avez les codes de la fantasy. Enfin, les films de SF, moi, eux, j'en parle même pas, mais moi, Men in Black, je devais avoir 12 ans, je sais pas, un truc comme ça, 10-12 ans quand c'est sorti. J'ai grandi avec ça, donc eux aussi. Et donc les codes de la SF, ils les ont, mais 10 000 fois plus que nous, en fait. C'est vraiment pas un souci, ça.
C'est-à-dire que se retrouver dans un univers, justement, même s'il est assez proche du nôtre, il est quand même différent par certains points, ça ne leur pose aucun problème.
Ben, je pense qu'ils ont tous la capacité de rêver. Hein. Je pense qu'on l'a tous, surtout à cet âge-là, et que parfois on la perd un peu en grandissant, mais que j'espère que vous ne la perdrez pas. Et que ce soit en fantasy ou en SF ou dans l'imaginaire en général, c'est la seule chose qu'il y a besoin pour en lire, en fait. C'est juste d'accepter ce que l'auteur nous donne en termes de « et si ». Et si il y avait ça, et si il se passait ça, et si il existait tel pouvoir, et si, qu'est-ce qui se passerait? Et ce « et si », c'est juste la capacité à rêver, et la capacité à se projeter, et la capacité à imaginer. Et ça, je pense qu'on est tous capables de l'avoir, et c'est vraiment pas une barrière.
Et dans l'identification au personnage, c'est la même chose? Il t'est arrivé de rencontrer des élèves qui se reconnaissaient en Dieu?
Oui. et d'autres qui ne s'y identifiaient pas du tout. Y arriver en deux trois. Mais je pense que l'identification est une part importante, mais pas essentielle non plus, parce qu'on peut très bien suivre l'histoire et être emporté par l'histoire sans s'identifier au personnage, en tant que le personnage principal est complètement tarte, et en même temps on a envie de savoir la suite. Donc c'est quelque chose d'important pour moi. Moi, par exemple, en tant que lecteur, en tant que lectrice, je ne supporte pas les personnages qui sont complètement désincarnés, où j'arrive pas, qui sont des stéréotypes physiques, et où en même temps j'arrive pas à ressentir l'émotion avec eux, où j'arrive pas à être emportée par ça, j'arrive pas à ressentir une douleur parce que ça va être tout le temps du cliché. Je supporte pas ça en tant que lectrice et j'essaye de ne pas faire ça en tant qu'auteur. Donc je pense que même si on ne se reconnaît pas dans le personnage, on peut adhérer suffisamment pour rentrer dans l'histoire. Enfin, j'espère.
Joanne, je pense que pour l'identification, en tout cas au contexte du roman, là, par contre, il n'y a aucun problème de ton côté parce que on baigne dedans quasiment au quotidien, dans cet univers de stars préfabriqués.
Dans le cas de ce livre, c'était particulier, puisque justement, le monde qui est décrit, je disais, bon, à une petite exception de science-fiction, enfin, qui est une légère anticipation encore, c'est notre monde réel, et voilà, c'est celui de la télé-réalité, en gros, entre guillemets. Et puis après, bon, ben, l'héroïne et les autres personnages qu'elle rencontre en cours de route se baladent dans les endroits qui existent réellement, qui sont identifiables, etc. Là, celui-ci, voilà, dans un cadre, on va dire, quasi réaliste. Donc, effectivement, là, en toute logique, l'univers qu'il présente est vraiment celui du jeune lecteur.
Mais est-ce que justement, c'est pas le traitement que tu en fais qui peut peut-être pas les dérouter, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas les faire bouger un peu les certitudes. Est-ce que tu as un regard critique finalement sur cet univers?
Oui, c'est évident que l'intention de départ, ça part. Bon, alors, on va lâcher peut-être un petit peu les grands mots, mais parce que j'aime pas non plus ça. J'écris pas pour dénoncer ou pour pointer, etc. Parce que bon, je trouve ça un petit peu prétentieux quelque part. Mais oui, indéniablement, enfin, je m'amuse à quand même faire un portrait pas très reluisant de ce milieu-là. On comprend donc clairement ce que j'en pense en lisant le livre. Mais ceux qui prennent le plus dans le livre, c'est pas l'héroïne principale qui au fond est une victime auquel moi, enfin, je me suis énormément attaché. C'est son entourage. Pour le portrait au vitriol, c'est plutôt celui du groupe qu'il emploie, enfin, qu'il a fabriqué, du management, etc. Enfin voilà, des comme de l'ombre, et ceux-là. Voilà.
Et sur l'identification, justement?
Ben alors, sur l'identification, j'ai déjà remarqué une chose, ben souvent à l'occasion des rencontres avec les jeunes lecteurs, c'est que, systématiquement non, mais assez souvent, il y a un phénomène d'identification qui va se faire, pas forcément sur le personnage sur lequel on aurait misé nous. Bon, on met en avant un héros ou une héroïne, mais assez souvent, ça va être sur son compagnon, sa compagne, ou voir un personnage des fois très secondaire, mais qui aura, on n'aura pas forcément pensé comme ça, qui va avoir un impact plus immédiat, plus fort, qui va dégager quelque chose. Je ne sais pas comment ça peut aussi s'expliquer. C'est lié aussi au propre ressenti de chaque lecteur. Et c'est lui ou elle, on devrait nous parler le plus. Parfois, ça m'arrive. Alors, bon, c'est. Il n'y a pas. Je ne pense pas qu'il y ait de recette de toute façon pour ça, mais bon, je rejoins exactement ce que dit Manon, c'est qu'il faut de toute façon qu'ils soient quand même incarnés, il faut qu'ils aient, voilà. Alors, quelquefois, bon, c'est là qu'on voit si nous, on a bien travaillé ou pas, hein, au final, en fait, on nous dit, ben oui, voilà, là, vraiment, oui, j'ai eu peur quand s'est passé ceci, là, oui, on a vraiment vibré quand il a fait cela, et si, quelquefois, mais quelquefois, c'est l'inverse, quelquefois, ça nous arrive aussi de rater notre coup, on se dit, oui, bon, là... Effectivement, il aurait pu y arriver n'importe quoi.
Mais là, tu pars quand même d'un archétype au départ.
Oui, tout à fait. Et justement, dans celui-ci, je me suis justement amusé parce que c'est le thème du livre à le démonter. Au départ, elle est un pur archétype, mais comme c'est une fabrication, c'est intéressant de savoir qui elle est et ce qu'elle est réellement. Parce que, une fois qu'on a brisé l'archétype, qu'est-ce qu'il y a derrière?
Quand on a coupé les fils de la marionnette.
C'est un peu la question que pose ce bouquin, oui.
Jean-Luc, dans une fantaisie, je vais quand même dire le mot, pardon, une fantaisie médiévale, donc là encore avec un univers très particulier, est-ce qu'il s'y retrouve facilement ces jeunes élèves?
Ça, je ne sais pas, c'est le dire, mais moi je pense en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas se retrouver. En fait, je vous dirais presque que le contexte n'a pas d'importance. Qu'on soit dans un futur très éloigné, dans un passé très éloigné, dans la préhistoire même, on ne sait rien, dans un univers totalement de fantaisie. Ça n'a aucune importance si on se retrouve dans le personnage, si on embarque avec lui dans sa tête ou juste à côté, si on sent des choses pour lui. Après ça, le reste n'a pas d'importance. On va vivre avec lui, on va souffrir avec lui. Et c'est le plus important. Le personnage est la base de tout.
Caractère first.
Voilà, c'est la porte vers l'histoire. Alors après, il peut y avoir des histoires. Moi, je sais qu'en tant que lecteur, personnellement, je te rejoins, quand je lis une histoire où le personnage est totalement désincarné, où je ressens absolument rien pour lui d'un goût à le livre. Ça peut être très intéressant, il peut y avoir des choses très intéressantes dites dans le livre. Hein. C'est, voilà, un livre basé sur des idées, c'est bien. Quelque part, je m'excuserai le terme, je vais me mentir.
Voilà. Ah, mais tu veux y aller. Hein.
énormément, et donc je pense qu'au bout d'un moment, le livre va me tomber des mains.
Ouais.
Donc je pense que justement, tout notre travail à nous, hein, alors si des fois on veut être un artiste entre guillemets engagé ou pas, peu importe, ça dépend ce qu'on a envie de mettre dans notre livre. Bah, il faut réussir à faire passer les grandes idées qu'on veut mettre dedans, grandes, je mets entre guillemets, hein, nos grandes idées à nous, qui sont la scandale. Mais il faut savoir le faire hein, en passant par ces personnages, par le filtre des personnages, de l'émotion, et je pense que c'est tout le travail de l'auteur. Il ne faut pas que non plus on dise, ça dépend ce qu'on écrit. Quand on écrit un roman, on n'est pas là en train d'écrire un cours de philosophie, quoi. Il faut savoir ce qu'on fait. Si on veut faire de la philosophie, on devient philosophe, on écrit une étude. Quoi. Ou alors, après ça, on peut faire passer des choses, mais dans ce cas-là, il faut que ça reste mais que le lecteur, il ne soit pas obligé de se dire, je suis en train de subir un coup. Que peut-être ça lui donne matière à réfléchir, mais qu'il ne s'en rend même pas compte finalement dans l'histoire.
Ça va pour les adultes aussi.
Et voilà, c'est pour ça qu'il faut penser. Et je pense par contre que là, c'est très bien parce que nos lecteurs qui sont là sont encore plus exigeants que nous parce qu'ils débranchent encore plus rapidement. Et nous, on va être gentil, on va dire, bon, je commence à lire un livre, je me barre, donc je le pose. Allez, moi, ça m'arrive des fois. Hein. Allez, 6 mois plus tard, je vais quand même réessayer, je le reprends, je mets encore 40 pages de plus et puis je bloque. Bon, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, s'il est encore dans la vie à lire, je crois que je dis, puis je peux le ranger définitivement. Mais je crois qu'ils vont beaucoup plus rapidement et finalement, ils sont plus honnêtes que nous.
Tu nous as décrit ton personnage et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemble pas forcément au canon la mode.
Non, c'est un peu un cousin de Quasimodo, on va dire. Hein,
alors, justement, et pour la question un peu bateau, mais on y revient toujours à celle de cette identification. On comprend bien aussi qu'il est important finalement qu'on s'attache à ce personnage.
Oui, alors lui, je pense qu'il est très attachant pour les lecteurs parce que quelque part, on s'est tous senti un moment allemand. On s'est tous senti un moment donné pas beau, moche. Et puis on s'est tous planqué derrière un masque. Moi, je sais que voilà, on en sort difficilement et même encore à nos âges, même adultes. Alors, je pense à l'adolescence, c'est pas des fois une période facile hein, parce qu'on n'est pas des fois à l'aise dans son corps, on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, on ne sait pas encore maîtriser nous-mêmes. Tant qu'on ne sait pas maîtriser nous-mêmes et tant qu'on ne s'accepte pas nous-mêmes, on ne peut pas s'ouvrir aux autres, quelque part. Et même pour nous adultes, c'est des fois difficile de tomber le masque. Quand est-ce qu'on tombe vraiment? Quand est-ce qu'on est... Il y a ça aussi dans le livre, c'est quand est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes, finalement? Quand est-ce qu'on ose être nous-mêmes? D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du métier. Être auteur, c'est ça, quelque part, dans les livres. On se livre, on se met, nous, tel qu'on est, nos interrogations, nos propres questions, nos propres peurs. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus merveilleux pour nous quand quelqu'un nous dit voilà, ben, j'ai aimé votre livre, quelque part c'est j'ai aimé ce que vous avez mis dedans, donc quelque part un peu de ce que vous êtes, je pense aussi, donc c'est très touchant pour un auteur.
Avec finalement une personnalité qui domine sur le physique peut-être pour une fois, exceptionnellement par rapport à ce qu'on voit
aussi,
beaucoup,
pour
rebondir un peu sur les romans.
Évidemment aussi, là. Bien sûr, c'est que dans ce cas-là, l'auteur, ben, quand on ne connaît pas son regard, on regarde ce qu'il y a dans sa tête directement dans le livre. Voilà aussi, ça nous permet de dévoiler un peu nous-mêmes que peut-être on n'aurait pas, comme tu disais tout à l'heure, on en livre toujours plus dans nos livres ce qu'on avait pensé y mettre au départ.
Alors cette expérience se termine avec ce salon et ces rencontres encore que vous allez sans doute faire tous les trois aujourd'hui, même si... Désolé de vous retourner un peu le couteau dans la plaie, mais vous n'êtes pas les lauréats du prix Imaginal des collégiens. Manon, est-ce que justement, on retire quand même une expérience particulière de ça? Est-ce qu'on s'en nourrit aussi pour ce qu'on fait par la suite?
Du prix?
Oui. Des rencontres?
Des rencontres, oui. Du prix en lui-même, c'est génial d'être sélectionné. L'avoir, pas l'avoir, bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais des rencontres, oui. D'abord des rencontres, en fait. Moi, c'est le moment que je préfère sur le festival, c'est quand je suis derrière ma table et qu'il y a des gens qui viennent et qu'on discute, quoi. Enfin, c'est juste génial. Mais j'ai ma petite question rituelle qui est « Qui es-tu ?» Et puis là, on discute. Et voilà, c'est le moment pour moi le plus riche et qui m'apporte le plus et qui est vraiment dans l'échange, donc c'est ça qui est chouette, quoi. Et ça rebooste pour repartir derrière sur d'autres projets, sur de l'écriture, parce qu'on sait pour qui on écrit, on les a rencontrés, les gens. Et les lecteurs, les espèces d'anonymes, là, derrière les pages, nous, on livre le bouquin et on sait pas où il va aller. Et là, on a un retour, et ça, c'est magique, quoi. On a la boucle qui se boucle avec les gens qui viennent nous voir et qui nous disent « J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai adoré tel personnage. » Et c'est vraiment le truc qui moi, me nourrit ma petite étincelle pour repartir et continuer sur d'autres choses et avoir envie de donner encore plus de ce que je suis dans d'autres pages, quoi.
En corrigeant peut-être aussi certaines choses, en se disant, tiens, là-dessus, j'étais peut-être pas forcément complètement en phase.
Alors là, sur June, il se passe un truc assez particulier, qui est que le truc pas cool, c'est que le deuxième tome a pas marché. Mais le truc cool, du coup, on rebondit, hein. La suite du truc pas cool, la conséquence, je recommence. Donc, le deuxième tome n'a pas marché. Donc, le troisième tome ne sortira pas chez Mango. Parce que financièrement, pour eux, c'est pas possible. Ce que je comprends. Il se trouve que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de commencer un super projet éditorial avec Rajo. Donc, ouais, ça. Donc j'ai écrit un Rajo thriller qui sortira l'an prochain. Et c'est vraiment des gens avec qui j'ai envie de travailler sur le long terme. Et l'éditrice m'a proposé de reprendre June en poche, donc les trois tomes, avec le troisième inédit, et de retravailler les deux premiers tomes. Et ça, c'est génial, parce que bah, le premier tome, il est sorti il y a plus d'un an maintenant, que j'ai écrit d'autres choses entre-temps, que j'ai eu l'impression de vraiment grandir dans mon écriture, et que je vais avoir la possibilité de retravailler ce premier tome, avec aussi tous les retours des lecteurs qui m'ont été faits, et moi, mon recul maintenant sur ce texte. Et je vais avoir la possibilité, je pense que le premier tome, je sais, bon, pour ceux qui l'ont lu, la deuxième partie, je vais complètement la retravailler, par exemple, qui était... Au jour d'aujourd'hui, je la trouve trop longue, cette deuxième partie. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rythme, qu'il manque un truc, quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. Et j'ai envie de vraiment refondre ça et le retravailler en profondeur avec ces nouveaux éditeurs, en se disant, voilà, c'est une nouvelle aventure, on fait un nouvel objet, et c'est le même livre, et en même temps, j'ai envie d'aller plus loin avec ce livre, j'en ai la possibilité, donc je le fais. Et ça, c'est assez génial, parce que d'avoir eu les retours, du coup... Ça permet, il y a des choses qui ont grandi, je me dis, ah zut, ça, j'aurais dû le faire autrement, ça marcherait mieux comme ça, et là, j'aurais la possibilité de le faire. Donc, c'est une déception pour quelque chose de génial derrière, et ça, c'est super.
Joël, toi qui l'as touché à un genre presque mimétique, en tout cas, beaucoup moins lié à l'imaginaire que ce que tu fais d'habitude, est-ce que là aussi, justement, ça t'a permis d'avoir quelques petits repères, de tirer quelques enseignements, ces retours de jeunes lecteurs.
Bon, pour être honnête, alors, sur ce titre-là en particulier, j'étais pas encore le recul suffisant pour... ça fait une petite année qu'il est sorti, je commence à rencontrer quand même, un certain nombre de lecteurs dessus, mais... Pas encore sur celui-ci, mais en revanche, sur d'autres titres, il m'arrive un petit peu des fois les expériences plus ou moins similaires et de voir après coup. Alors, ça ne s'est pas transformé en réécriture réelle, mais de voir, ah tiens, effectivement, au bout du compte, après toutes les différentes, si on fait la synthèse de toutes les différentes remarques qu'on a eues, voilà comment peut-être il aurait fallu que. Et c'est ça pour vous montrer que aussi, je dirais, les auteurs, on est des sortes de vampires, également par rapport à vous, parce que certes, on a ce qu'on peut appeler notre imagination, qui en fait surtout énormément de travail, mais on se nourrit véritablement de ce que vous allez nous dire également. Alors, à titre personnel, il m'arrive assez régulièrement, après des rencontres dans des classes ou sur un festival de jeunes auteurs, j'entends des choses que je vais noter dans un petit coin de ma tête et qui vont, sous une forme ou sous une autre, rejaillir dans un projet futur, dans un livre. Ça peut être un détail, ou quelquefois ça peut même être le point de départ d'une nouvelle histoire, d'un nouveau livre, d'un cycle romanesque, etc. Il y a, de cet échange, il y a une vraie nourriture, il y a vraiment quelque chose qui tôt ou tard, se réincarne dans notre travail. Ça, je l'ai déjà remarqué.
C'est Jean-Luc, pareil, même genre de remarque. Est-ce qu'on retire une expérience de tout ça?
Bah, bien sûr, déjà on se remet en question soi-même. Ça nous permet, ce que je disais, moi quand j'étais enseignant, il y a fort longtemps maintenant, j'étais encore en prise, avec des élèves comme vous, et donc je connaissais leurs interrogations, etc. C'est vrai que maintenant, nous, en vieillissant un peu, on n'a peut-être pas forcément les mêmes interrogations, et justement ça nous permet de savoir justement quelles sont les questions maintenant. À quoi est confronté un petit peu, à quel questionnement, à quel problème, ou quelles peuvent être vous les questions que vous vous posez, vos problématiques à vos âges, et donc de l'intégrer à nos personnages, de les rendre d'abord plus crédibles quand on vous voit. C'est vrai que l'on oublie des fois un petit peu comment on était quand on était jeune, comment on rajoute. Pas tout à fait, quand même, après, on ne sait pas les fils, on n'était pas restés des grands gamins. Mais si on avait oublié la faculté de rêver, et pour ça, je pense que c'est très très important. Il y a un questionnement, et effectivement, des fois, quand je parle d'une histoire ou d'un projet que j'ai avec des jeunes lecteurs, des fois ils répondent, ils disent ah oui, ça. Puis, des fois ils disent tiens, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu, j'avais pas vu cette idée-là. Donc, je vous apportais quelque chose, puis de toute façon, votre regard, comme on disait tout à l'heure, vous est indispensable. Vous êtes extraordinaire. Je disais qu'on est des vampires, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Paul Valéry qui a utilisé que les livres sont des vampires de papier. Je trouve cette expression, c'est très beau. C'est, voilà, un livre, il a besoin de lecteurs pour exister. Un livre sans lecteurs, ça n'existe pas. Un livre, c'est fait pour faire rêver les gens. Si vous n'étiez pas là pour rêver en lisant vos livres, nous, on aurait raison d'être là.
Vu le temps, vous n'avez pas dit que vous étiez des éponges, parce que ça pouvait mal finir. Je voulais qu'on termine éventuellement, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y en a parmi vous, j'ai profité, j'ai un micro sans fil, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser à nos auteurs ici, sur leurs livres, sur leur expérience, sur ce qu'ils sont? Soyez pas timides.
Même les personnages, j'ai des images en tête très fortes et j'avais cette image d'un escalier de nuages en fait et c'était vraiment une image très forte pour moi et très ouais, qui donne une ligne directrice. J'en avais plusieurs comme ça tout au long de la trilogie et celle-là j'y tenais vraiment, je tenais à ce qu'elle bascule dans sa vie vers quelque chose d'irréel, vers quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui vraiment n'existe pas dans notre monde. Et voilà, j'avais cette envie de bascule au moment où elle pose le pied sur le nuage et qu'elle voit que ça tient et qu'elle monte. Je vous laisse ce moment-là et du coup, voilà, le bord de la lune est dans les nuages.
Tiens, c'est pour toi.
Merci, non, mais je vais être honnête, non. Alors, c'est tout à fait. C'est pas par volonté, parce que non, enfin, vraiment, t'as vu ce qu'il y avait dans la. Non, moi je connais mes petits camarades, j'ai découvert dans la sélection, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, et donc bah, voilà. Pas forcément le temps, je vais pas les livres sous la main, mais je me rattraperai. Non, voilà. Non, là, ils sont en l'occurrence. Voilà, des fois, on se trouve dans des prix où effectivement, on connaît déjà les livres des collègues. J'ai lu là, bon, là, c'était pas le cas. Bien sûr, il y a trop de livres. C'est ça notre problème aussi. Ouais. Parce qu'on est aussi lecteur avant. Hein,
c'est trop le temps.
Et oui.
Sans régalçant.
Non, malheureusement, non, je les ai pas lus. Voilà, donc j'entends mes collègues, par contre ça me donne envie. Alors, je n'ai pas encore lu les livres de Manon, j'ai déjà lu des livres de Joanne qui est là, mais pas celui-là. Donc, non, ce n'est pas une volonté de ne pas lire les livres des collègues. C'est vrai que malheureusement, je ne sais pas mes collègues à moi à côté, mais en tant qu'auteur, depuis que j'écris, je me rends compte que je lis moins, parce que je passe beaucoup plus de temps, des fois le soir, au moment où je disais avant, à écrire. Donc j'avance abominablement, je trouve, lentement sur mes lectures par rapport à quand j'avais votre âge, j'étais capable de lire un livre en 2-3 jours, voire même 2-3 livres par semaine. Maintenant, je me trouve un véritable escargot dans mes lectures. Donc, j'accumule par contre plein de livres que j'ai envie de lire à côté de moi, à côté de mon canapé. Il y a une pile à lire curieuse. Et alors, j'essaie difficilement, j'en lis un, je suis là, ouais, ça y est, j'en ai enlevé un. Entre temps, j'en ai acheté 3.
Et, quand ça peut te rassurer, j'écris pas, je fais pareil.
Voilà, jamais.
Manon.
Ceci expliquant cela.
Ou sinon, il y a.
Bon, ben, comme mes collègues, je n'ai pas lu les livres de la sélection. Par contre, j'ai lu d'autres livres d'eux. Mais oui, moi, par contre, je lis toujours autant. Hein. C'est, bah, parce que j'écris pas le soir. J'écris en journée, du coup, le soir, je lis. Voilà.
Découvre aussi les us et coutumes de nos auteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
Par ici.
Je suis un fils. Ah non, pas moi.
Oula. Tu verras.
Loin de moi, loin de moi.
Non, mais je me place pas, c'est génial. Mais les moments où je joue au jeu de société avec lui, tu vois, voilà.
Je voudrais savoir si.
Alors il y en a plein, mais en fait, il y a ceux dont on est conscient, et puis il y a ceux dont on n'est pas conscient qui nous ont inspirés, mais qui font partie de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a lu, et qui forcément ont une influence sur nous, sans que ce soit forcément relié à un projet en particulier. Mais moi, il y a un truc particulier, c'est que j'ai lu énormément quand j'étais petite, quand j'étais enfant, d'albums avec des illustrations. Ouais. Et il y en a qui m'ont vraiment marqué parce que je les ai lus plein de fois. Et je pense aux bateaux volants qui sont dans le jaune. L'épave du Zéphyr, c'est un album comme ça où il y a des bateaux volants avec des images magnifiques. Et par exemple, typiquement, c'est un album qui m'a inspirée et qui reste pour moi quelque chose que quand je rentre chez moi en Bretagne, je sais que je vais le feuilleter à un moment donné parce que ça fait partie de mon centre. C'est ces bouquins qui font partie de mon centre. Donc j'ai été très inspirée aussi par d'autres albums, genre tous les albums de Claude Ponty, que j'ai grandi avec vraiment pendant des années, et ma mère continue à m'en offrir à chaque anniversaire. et c'est toujours aussi génial parce que c'est juste des albums qui sont autant pour les grands que pour les petits. Et donc j'ai été très inspirée par autant d'images en fait que de mots.
Ouais. Parce qu'on n'avait pas entendu le début de la question, comment tu parlais, c'était toutes
tes influences.
Voilà, oui. Alors, pas forcément d'influence au sens où j'essaierais de reproduire dans mes livres quelque chose qui m'aurait marqué précisément, mais peut-être des modèles, entre guillemets, aussi à la fois par rapport à des œuvres, mais les hommes ou les femmes qui les ont portées. Pour citer un nom, par exemple, je parle de Stephen King, qui a nourri mon imaginaire d'adolescent, de préadolescent. Ça fait partie des premiers auteurs que j'ai vraiment dévoré quand j'étais au collège. Et puis après, quand je me suis intéressé à l'homme, je l'ai encore davantage apprécié pour ses goûts, pour ses engagements, pour ce qu'il est, etc. Donc voilà, alors ça ne se retrouve pas forcément dans mes livres parce que je ne fais pas forcément d'horreur, de fantastique comme lui, même s'il a fait aussi comme la science-fiction, etc. Mais voilà, peut-être, je dis, pour moi, c'est un bel exemple à suivre. Je ne parle pas juste parce qu'il a du succès, etc., mais parce que voilà, parce que l'homme a des engagements, et il les porte dans ses livres, il est, c'est un homme admirable. Bon, voilà. Un auteur, ça peut être ça aussi.
Si je suis hyper jeune, dans quelques mois, on va découvrir un peu mieux ton unité. Je crois savoir, il y a un ouvrage qui sort au Mouton électrique.
Oui, un recueil de nouvelles donc, qui s'intitulera effectivement « Jeune Elliot vous présente ses hommages ». Tout est dit dans le titre, puisqu'en fait, ça réunit des textes dont l'inspiration, alors, pour chacun des textes, est effectivement un auteur passé ou des personnages de fiction, effectivement. Alors, un deuxième exemple que j'allais citer, j'ai aussi été très influencé quand j'avais votre âge, parce qu'en même temps que je découvrais Stephen King, j'ai découvert des auteurs qu'on appelle des auteurs de romans feuilletons du 19e siècle. Alors, des gens comme, surtout marqué Maurice Leblanc, c'est celui qui a créé le personnage d'Arsène Lupin, pour ceux qui connaissent. Et voilà, ça m'a énormément. Ça m'a fichu une sacrée claque quand j'avais votre âge, moi, ce genre de bouquin, voilà. Et quand j'ai commencé à écrire des textes courts, des nouvelles, j'ai rendu hommage, là, cette fois-ci, très directement à ces auteurs-là, que je me suis emparé pour le personnage d'Arsène Lupin dans une des nouvelles. Alors, comme en fait, on n'avait même pas le droit, mais bon, on a pris quand même le droit avec l'éditeur. Et voilà, donc effectivement, et on va réunir tous ces hommages-là dans un recueil.
Donc voilà, si tu veux voir un peu l'univers de Jorène, je pense qu'il y aura pas mal de choses dans ce livre qui sortira en mois de septembre, je crois. Jean-Luc, les influences
C'est compliqué parce qu'à chaque fois qu'on m'en sort, on dit deux ou trois noms. Il y avait celui-là aussi. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est voilà, des fois je rencontre des gens, je suis en dédicace comme ça, et des gens qui disent voilà, mais qu'est-ce que vous aimez comme genre de livre? Moi, je dis j'aime tout, en règle générale. Je dis parce que c'est trop dommage de dire voilà, je vais lire que ça, je vais lire qu'un type de livre. Un auteur, quand on écrit une romance, c'est un peu comme si on préparait une soupe ou un plat de cuisine. C'est pas gourmand, ça se voit. Hein. Si je disais, tiens, moi je mange que des carottes, je n'aime que les carottes, je vais cuisiner qu'avec des carottes, c'est bien sympa au bout d'un moment, mais on a beau les assaisonner comme on veut, ça reste des carottes et je pense que ça finirait par être triste. Donc je pense qu'un auteur, pour que sa critique soit le plus riche possible, il faut qu'il ait lu le plus de choses différentes possibles. Plus j'en lis des choses différentes, et plus c'est intéressant. Alors je sais pas, je vais essayer de vous en jeter quelques-uns comme ça, là, des ingrédients de la soupe. Alors il y a quoi? Il y a Alexandre Dumas, tu parlais de Maurice Leblanc, Eugène Sue, Balzac, Lovecraft, Edgar Rice Burroughs, par exemple. Voilà. Mais aussi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais ajouter, Céline, pour l'écriture, même si j'aime pas le personnage, parce que l'écriture est extraordinaire. Nathalie Honneberg, qui est une auteure française de science-fiction qui a écrit un bouquin qui m'a marqué, qui s'appelait La Plaie, que j'ai trouvé fabuleux, que j'ai lu et relu, qui est d'une beauté, d'une cruauté terrible, hein. Un space opéra comme j'en ai jamais lu. Et après ça, dans les films, évidemment, je suis partie de la génération Star Wars, donc je suis frappé, moi, voilà, je veux dire, au saut de George Lucas, là, il en reste toujours un petit peu quelque chose quelque part. Alors, ce qui est rigolo en tant qu'auteur, c'est quand on écrit un livre, toutes ces influences, et encore j'en oublie, tiens, si, il y avait Caroline Zanichieri qui a écrit Soleil Mort, une trilogie qui est extraordinaire de SF, le livre Braquet, elle prend une tome, enfin bon, on arrête là. Et voilà, enfin, il y en a quelques-uns quand même aujourd'hui que j'ai réussi à citer. Voilà, on écrit notre livre et puis on ne se rend pas forcément compte des influences qu'il y a dedans, c'est après quand les gens nous disent ah tiens, là ça m'a fait penser à. Voilà, par exemple, dans Galou, il y a une influence de Stephen Senior, dans notre livre que j'adore. Des gens me disent par exemple, tiens, ça ressemble un peu à du Lovecraft. Et puis, tiens, effectivement, des fois on se rend compte que dans le livre, il y a quelque chose qui nous est revenu dans le livre, de quelque chose qu'on a lu, mais peut-être 15 ans ou 20 ans avant, qu'on n'avait même pas vu. Et puis voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très important de lire, voilà, et de mélanger toutes ces influences, parce que tout ça, ça se mélange, ça peut rester des années coincé là-dedans, puis de temps en temps, hop, ça ressort, puis ça donne autre chose. Donc, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé déjà à écrire, j'étais tombé dans Lovecraft. Je ne lisais que du Lovecraft, donc du coup j'écrivais du Lovecraft. C'est gentil, on a tous une période comme ça, je pense. Mais heureusement que j'ai lu d'autres choses après, parce que voilà, il y a eu d'autres styles qui sont venus un petit peu délayer tout ça et l'enrichir.
Est-ce qu'il y aurait un enseignant qui essaie de répondre à une question pour avoir un petit peu son regard aussi sur cette expérience?
Je pensais qu'en jeunesse, c'est un choix un peu particulier, et ça l'est probablement. En fait, j'avais envie de placer June dans un environnement où elle avait à grandir très vite, où elle avait à devenir mature très vite, où elle se rendait compte aussi des relations entre les gens qui sont pas forcément, qui sont parfois intéressées, qui sont parfois financières, qui sont parfois sexuelles, qui sont parfois... Voilà, j'avais envie de la placer dans un environnement comme ça où elle allait côtoyer beaucoup d'adultes aussi et où il y aurait un danger pour elle en tant que jeune fille. Voilà, donc ça m'a amené là à la placer effectivement dans un bordel où quand même elle est très protégée mine de rien dans cet endroit là, mais les dangers sont là et l'environnement la pousse à partir.
Proche de votre univers, en fait, penser au manichéisme, ou à la théorie, ou au droit, dans la Zoroastre, etc. Où il y a aussi un monde visible et invisible, des forces cosmiques qui s'affrontent. En fait, c'est très proche de cet imaginaire-là. Donc, voilà.
J'ai envie de dire aucun, très honnêtement. même si je pense qu'on est nourri par plein de choses, y compris des choses dont on n'a pas conscience. Et, bah ouais, c'est des choses dont j'ai entendu parler, mais je ne peux vraiment pas dire que je les ai étudiées spécialement. Donc je vais dire aucun, et je suis vraiment désolée de cette réponse. Mais elle est honnête au moins.
Les deux autres, c'est pas la peine de ricaner.
Le fond de la classe, là, ça va.
En tout cas, merci beaucoup. On arrive au terme de cette rencontre. Voilà, j'espère qu'elle vous a encore donné l'occasion de réfléchir à ce que vous avez pu lire. Peut-être vous donner, pourquoi pas, envie de lire ceux que vous n'avez pas encore lus. Et puis, pendant que vous êtes là cette journée, n'hésitez pas à aller rencontrer les auteurs sous la bulle du livre, à aller continuer la discussion avec eux, à les partager. Je pense que Manon va avoir du monde. C'est moche les deux. C'est noté.
J'ai